Elle traverse la salle à manger qu'elle connaît déjà. Au centre de la pièce rustique, l'auréole de la nappe blanche. Au fond, une porte de bois foncé qui grince quand Alexandrine fait jouer la clenche. Elle débouche dans une cuisine qui sent fort le feu de bois. À l'intérieur de l'âtre sont suspendus des saucissons mis à fumer, comme au début du siècle. Dans l'angle, une vieille pierre déviée est munie d'une pompe en cuivre. Le carrelage usé brille de propreté. Elle s'avance. Elle aimerait un bout de pain ou de fromage pour retrouver des forces. La salive lui monte à la bouche, c'est bon signe, elle va mieux. Elle soulève le couvercle d'une huche et plonge la main, en tire un demi-pain bi. Derrière elle, le garde-manger grillagé lui fournit du beurre de ferme, crémeux, salé, d'un jaune vif, presque agressif dans cette pièce où tous les tons sont rompus. Sur une étagère basse, elle découvre des pots de confiture, en choisit un déjà entamé. Elle s'installe pour la collation sur la table de la cuisine. Le plateau de bois sombre est doux comme un tissu souvent lavé. Les miettes y font des constellations rebelles qu'elle s'empresse de rassembler. Et si on la surprenait ? Se servir toute seule dans une maison où l'on est invité, est-ce mal ? Manger lui fait du bien. Elle savoure chaque bouchée de ce pain paysan, on n'en trouve pas en ville, et la confiture de fraises est un délice. De la pompe de l'évier, une belle eau claire jaillit au bout de quelques mouvements. Elle s'en remplit un verre et boit à longues goulées. L'eau froide descend en elle. Elle pourrait tracer du doigt son trajet. Elle lave le verre, essuie la table, replace beurre et confiture là où ils étaient rangés. Elle respire mieux que tout à l'heure. Le bain le détend. Elle a peur de lui faire mal. Il la rassure d'un regard. Désormais, c'est comme ça. Ils ne se parlent plus, c'est devenu inutile. Elle comprend ce qu'il a à lui dire. Il économise ses mots, sa force. Se passer du langage articulé, tous les deux y voient beaucoup d'avantages. Elle trouve un gant de crin pour lui frotter longuement le dos entre les omoplates. Il se penche en avant pour lui laisser le champ libre. De lui, de son maître, de cet homme dont elle s'occupe, elle ne voit plus qu'un cou tendu vers l'eau. Des cheveux épais, trop longs, ils tombent vers l'avant, au ras de l'eau, dégagent les épaules. Des épaules ordinaires, terriblement banales. Des épaules un peu maigres, moins musclées que celles de son homme qui travaille dur. Des épaules normales, malgré tout ce qui lui est arrivé. Dans cette position, il n'est qu'un gars comme les autres. Elle rougit à cette pensée. Heureusement, il ne la voit pas. Elle se rend compte de ce qu'elle fait. Elle frotte le dos de son patron pour le rendre moins malheureux. Dans un autre contexte, dans un autre temps, dans un autre lieu, cela n'aurait pas été convenable. Elle sent monsieur se détendre. Ses épaules maigres se relâchent. Elle s'interroge. Question sourde qui tourne et retourne sans véritable réponse. Qui peut bien le toucher encore comme ça? Elle se demande qui l'effleure autrement. Seulement sa femme. Elle y est bien obligée. Le laver, l'habiller. Mais le reste, qu'en est-il du reste? Elle pense, le cœur triste, que se faire tripoter par obligation, ça fait sûrement moins de bien que par amour. Elle se questionne. Sa femme le caresse-t-elle encore avec tendresse, avec amour? Elle frémit d'y songer. Elle ose à peine se le suggérer. C'est comme si, rien qu'en y pensant, comme si elle violait leur intimité, alors même qu'elle est en train de frotter le dos de l'époux d'une autre. Elle se demande au plus profond d'elle-même, avec un curieux sentiment, inavouable, un peu de honte d'être aussi curieuse alors qu'elle frictionne ce dos étranger